Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Et oui, bonjour à tous et à toutes, si vous prenez un instant l'antenne, je suis très heureux de vous retrouver pour votre émission littéraire. Et aujourd'hui, je reçois une auteure, Yana Rocha. Et oui, vous êtes bien sur votre radio, REC 103.7 FM. Yana, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, vous êtes auteur et vous, c'est votre premier roman ?
C'est pas exactement mon premier roman, puisque j'en ai publié un auparavant, qui était un petit roman sans prétention qui s'appelait La migration des lits. C'était il y a une quinzaine d'années. Alors, lit avec L-Y.
Ah, d'accord.
Sur une famille vietnamienne. Et c'était un roman vraiment écrit pour plutôt des amis. Voilà. Et,
qui a été publié ?
Oui, il a été publié. Mais je l'avais vraiment écrit au départ parce que j'avais un ami qui faisait une dépression.
Oui.
Et j'ai voulu le faire rire en lui racontant des histoires de famille liées à son défunt grand-père dont il parlait beaucoup, que je n'ai jamais connu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un peu comme un challenge pour faire rire un ami, enfin, que j'ai commencé à écrire un roman, puisque j'avais déjà écrit auparavant.
Comme ça, mais sans le publier.
Alors, il a été publié, mais un peu par hasard. C'est-à-dire que je l'avais envoyé, ce premier roman, à une maison d'édition qui s'appelle Mon Petit Éditeur. Mmh. Et il a été sélectionné pour être publié à compte d'éditeur. Et il a été tiré en petit nombre. Mais quand même, ça m'a donné envie de continuer.
C'était le premier d'une grande série, alors.
Ben, j'espère.
Hein ? Alors, je vois dans votre biographie que vous êtes d'origine espagnole.
Non.
Non ? Ah, bah, pourtant, vraiment. J'ai vu ça, une langue d'adoption, l'espagnol. Ah non, c'est l'adoption,
oui,
pardon.
Oui, c'est la langue d'adoption. L'espagnol, c'est arrivé vraiment par hasard. J'habitais à l'époque à Sophia Antipolis, vous savez, à côté de Nice. Mm-hmm. J'étais enfant. Et il y avait un lycée international juste en face de notre maison. Il suffisait de marcher pour y aller. Et mon père n'avait pas très envie de m'emmener jusqu'au collège normal, entre guillemets. Donc, il m'a dit, écoute, est-ce que tu pourrais passer les tests et essayer de rentrer dans ce lycée international ? Tu seras en section espagnole, tu vas faire un double bac français-espagnol. Et ça pourrait être intéressant pour toi. Et puis moi, comme ça, je n'ai pas besoin de t'emmener en voiture.
Oui, puis d'une part, il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol, hein.
Donc ça m'a servi, puis ça m'a servi à plusieurs titres professionnels, puisque j'ai travaillé comme enseignante d'espagnol à l'université, j'ai été aussi traductrice assermentée, mais ça, c'est un peu plus important, je vais dire, c'est que j'ai pu connaître mon mari, qui est d'origine bolivienne.
D'accord.
Et j'ai aujourd'hui deux enfants qui parlent espagnol et français.
Bilingue.
Voilà.
Ben c'est bien.
Voilà.
C'est bien. Bah écoutez, c'est comme, voyez les rencontres comme ça, et
voilà.
Puis on fonde des familles après,
voilà.
C'est bien. Et finalement, c'est une bonne chose que votre père vous ait envoyé en face, alors, finalement.
Voilà. Il m'a dit, tu vas marcher, ce sera plus simple.
Alors, vous dites que vous avez été professeur d'espagnol.
Oui.
Et puis, est-ce que vous avez eu envie d'écrire un roman en espagnol?
Oui, effectivement. Alors, j'ai publié une nouvelle en espagnol.
Ah, d'accord, oui. En Espagne?
Alors, ça a été publié en Floride, figurez-vous.
Floride, d'accord. Oui, c'est pas trop l'Espagne, ça, mais bon.
Oui, les Espagnols ne fonctionnent pas comme nous. Ils ont des appels à texte qui se font principalement... Enfin, voilà, pour les publications, c'est principalement par concours. Que ce soit pour des romans, que ce soit pour des nouvelles. Et il y a très peu de concours qui sont ouverts aux non-nationaux. Donc,
d'accord.
Aux gens comme moi qui écrivent en espagnol, mais...
Qui ne sont pas d'origine espagnole. Voilà. Mmh. Bah, si on reprend l'histoire, la Floride était espagnole dans le temps.
Voilà, donc j'ai réussi comme ça à publier une nouvelle, et puis j'ai écrit un roman, et j'aimerais bien, oui, le publier, effectivement, un roman en espagnol.
Ah bah, dites donc, c'est plein de projets, ça.
Ah, bah, écoutez, info.
Alors déjà, là, j'ai sous la main, là, donc, un homme sous les nuages. Alors, ça nous parle de quoi, tout ça ?
Un homme sous les nuages, c'est une expression que j'ai empruntée à Simone Swartbart, qui, euh, qui est une merveilleuse écrivaine que j'admire énormément. Et elle a écrit ce roman qui s'appelle « Pluie et vent sur Télumé Miracle mm-hmm. » ou « Tigeant l'horizon » également. Ce sont des romans où il y a vraiment ce qu'on appelle le réalisme magique, où la magie intervient dans notre quotidien et nous éclaire sur la nature humaine. Et elle parle d'un homme sous les nuages. C'est un homme qui, en fait, a des problèmes. Quand on est sous les nuages, c'est qu'on a des problèmes. Et j'ai pensé à elle. Elle est d'origine guadeloupéenne, cette dame. Et j'ai voulu écrire l'histoire d'un homme, donc d'origine guadeloupéenne en partie, puisqu'il est moitié guadeloupéen, moitié français, qui débarque en Argentine et à qui il arrive toute une série de problèmes.
On voyage, dites-donc, avec vous. Hein. Et donc, il est accessible pour tout public où il est spécialisé un peu à un public précis, pardon.
Alors, je dirais pas que c'est pour les, c'est pas la littérature jeune adulte. Voilà, ce n'est pas un roman feel good comme certains auraient pu le croire. Hein. Je pense que c'est pas, on n'est pas non plus, c'est pas un roman du tout qui vous emmène sur les chemins de la dépression, mais c'est un roman qui vous fait réfléchir à un petit peu, enfin, je veux pas être prétentieuse dans cette formulation, mais je voulais imaginer quelqu'un qui était en Argentine, qui a une couleur de peau noire, et je sais ce que c'est qu'être noire en Argentine. Je ne suis pas noire moi-même, mais j'ai travaillé sur la question des Afro-Argentins. J'ai rencontré beaucoup d'Argentins d'origine africaine, et j'ai su que c'était une population qui était auparavant quand même importante en Argentine. Ils étaient 30% de la population argentine au 19e siècle. Et ils se sont retrouvés à être une minorité invisible. Et aujourd'hui, quand on est noir en Argentine, c'est très compliqué, parce que, surtout dans le nord de l'Argentine, il y en a encore moins, parce que les gens ont toute une série de préjugés sur la couleur de peau. Ah. Et ils ne traitent pas forcément les personnes de cette couleur de peau de façon très naturelle, voilà.
Alors, je vois quand même qu'en lisant un petit peu la quatrième de couve, il y a un petit peu une petite enquête, là, puisqu'ils enquêtent sur la disparition de Marcella.
Oui.
Il y a une petite enquête quand même un peu. C'est...
Oui, exactement.
Ah, bah, il faut le dire, ça, parce que voilà.
Alors, ce qui se passe, c'est que Joël Lemaître se retrouve dans un petit village qui s'appelle Marigot, mais qui est un village fictif. Hein. Marigot n'est pas un prénom argentin, n'est pas un nom argentin du tout. Et il se retrouve dans ce village au moment où va disparaître une femme. C'est Marcella. Et voilà, c'est son arrivée. Coïncidant avec sa disparition, il est accusé de l'avoir enlevé ou tué ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Il va se retrouver aidé malgré lui, parce que ce n'est pas du tout son objectif, par une jeune fille polyglotte qui s'appelle Tania et qui a décidé qu'elle allait sauver la vie de Joël, mais qui va en fait le mettre plus dans des problèmes improbables qu'autre chose. Et voilà.
Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. On va faire une petite pause musicale hein, pour ce, avec une certaine Jeanne Masse et sa toute première fois.
La page, votre émission littéraire
sur REC 103.7,
animée par Mathieu Noiroux.
Et oui, et nous retrouvons notre invité, donc Yana Rocha, pour son roman Un homme sous les nuages, d'ailleurs qui est publié, on va le dire, chez Ex Aequo.
Oui.
Et qui est donc de l'année dernière, puisqu'il est en 2024. Et on a commencé un petit peu à parler de l'histoire. Et où vous est venue toute cette histoire, enfin cette envie d'écrire cette histoire, etc. C'est du vécu ou d'imagination pure ou un petit peu des deux?
C'est une histoire fictive. Pour la thématique, c'est clairement inspiré de mes recherches, puisque j'ai travaillé en tant que chercheuse sur la question de la création de la nation argentine et du traitement des minorités, surtout la minorité afro-argentine. Mmh. Donc c'est vraiment ça qui m'a emmenée à me poser cette question. Après, j'ai voyagé en Argentine, j'y ai été plusieurs fois. Mmh. Et j'ai été très frappée par ce pays qui est merveilleux. Et magique, vraiment. Cafayate, c'est un village qui existe au nord de l'Argentine, qui a inspiré le village de Marigot. C'est un village où, quand on y arrive, on tombe sous le coup de la paresse, une paresse énorme.
Ah bon ?
On n'arrivait rien à faire, vraiment. C'est un village où on a envie juste de se poser, manger, boire, écouter des gens chanter, se promener à la limite, mais pas...
Joli paysage.
Ah, magnifique, puisque ça ressemble, pour tous les gens qui ont vu des westerns, ça ressemble au paysage des États-Unis, vous savez, oui. Aride, mais très coloré, avec des montagnes comme ça, vertes, violettes, voilà. Incroyable.
Ah bah c'est pas... Donc vous avez fait plusieurs voyages là-bas, alors ?
Oui, j'ai eu la chance de voyager très tôt, puisque mes parents ont déjà... ont habité dans plusieurs pays lorsque j'étais enfant, donc forcément j'ai suivi, et ça a été une chance énorme, mais ça a été aussi après un besoin de continuer de voyager. Je suis allée en Amérique latine toute seule quand j'étais adulte, pour la première fois, J'avais 18 ans, je crois, 19 ans. Et j'ai passé plusieurs mois, je revenais.
Déjà très intéressée étant jeune, alors.
Oui.
Envie de voyage.
Ah oui.
Et alors l'Argentine, on parle d'Argentine, et la Bolivie ?
La Bolivie, bien, j'y suis allée parce que je m'étais inscrite d'ailleurs dans un master de LLCE espagnol, vous savez, de langue, littérature, civile espagnole, mais en ligne. Donc ça me permettait de voyager toute l'année. Je rentrais en France juste pour passer les examens. et c'est comme ça que j'avais juste pris un billet d'avion pour l'Argentine et en comptant à partir de là, gravité tout autour. Donc j'étais au nord de l'Argentine, à Salta. Et c'est comme ça que j'allais facilement dans plusieurs pays frontaliers, le Chili, mais aussi la Bolivie pour la première fois.
Ah, parce que c'est grand l'Argentine.
Oui. Mais en même temps, quand on y est, on ne se trouve pas si dépaysé. Parce que c'est un pays qui a été façonné par l'immigration européenne et l'architecture, la culture argentine est quand même très imprégnée de l'Europe. Donc on n'a pas l'impression de se trouver tellement loin.
Alors moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir un auteur qui avait fait avec sa femme l'Amérique du Sud en 180 jours. Ils avaient fait plusieurs, la Bolivie, l'Argentine, il y avait tout un périple, un peu comme vous, donc autour de l'Argentine. Et c'est vrai que c'était intéressant de découvrir ce qu'ils avaient vécu, etc. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller voir, etc. Et c'est vrai que s'ouvrir au monde est intéressant parce qu'on découvre plein de choses. Et malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager, même si aujourd'hui on a des moyens modernes. Qu'une époque, il y a beaucoup de gens qui restaient toujours dans leur ville ou dans leur village, et ils ne sortaient absolument pas, même pas dans la France.
Certainement, il y a une question de chance. Mais la chance, ce n'est pas forcément sur le facteur argent, c'est, je pense, sur aussi l'éducation qu'on a eue, l'habitude qu'on a eue. Dans mon cas, quand j'ai voyagé la première fois, je n'avais pas du tout beaucoup d'argent.
Non, mais
mais j'avais économisé. Voilà.
Oui, mais il y avait aussi les échanges entre les voyages scolaires, les choses comme ça, qui sont aussi des choses intéressantes aussi. Mais bon, à l'étranger, il n'y en a pas, à part l'Angleterre ou les choses un peu classiques, Espagne, Angleterre, etc. Ils vont pas trop loin.
Oui. Alors, moi, j'ai eu la chance d'habiter très tôt à l'étranger, puisque mon père était journaliste puis prof. Donc, c'était une habitude de changer de pays tous les 2-3 ans.
Ah bon ?
Donc, c'est vrai qu'on habitait au Maroc, on habitait aux Émirats Arabes Unis, dans plusieurs pays, ou des territoires français tels que Mayotte, qui sont quand même très, très différents. Ce qui a fait que, oui, je n'avais pas peur de voyager. Ça, c'est une chance. Ça m'est tombé du ciel. Je ne peux pas en tirer... je ne peux pas dire, c'est moi qui suis spéciale. J'ai eu cette chance-là. Mais par contre, je n'avais pas tellement de ressources financières. Donc, j'ai fait énormément de babysitting pendant des années, très tôt. Et j'ai travaillé aussi l'été. Et dès que j'ai eu réuni suffisamment d'argent, je suis partie, je me suis financée mon voyage en Amérique latine.
Et le fait de changer tous les 2 ans, etc., l'adaptation se fait facilement ou vous êtes facilement adapté ou ça a été plus difficile ?
Alors, pour moi, je vais vous dire, c'était génial. Je n'avais pas du tout peur de partir. Bon, après, j'avais cette chance d'être dans une famille stable. On ne partait pas dans des conditions difficiles. On partait pour le travail.
Non, mais je veux dire l'adaptation par rapport au pays lequel vous viviez. Vous parlez d'Arabie Unie, vous parlez de... Mayotte, c'est totalement différent.
Il y a
des pays totalement différents et totalement façon de vivre différente.
Alors, effectivement, il y a des choses plus difficiles que d'autres. Il y a des pays qui sont peut-être plus difficiles aussi selon les âges. Hein. Par exemple, je crois que le Maroc est un pays très facile pour s'adapter, quel que soit l'âge qu'on a. Les Émirats Arabes Unis, ça pouvait être un petit peu plus contraignant, notamment pour les femmes. Je me souviens de ma mère qui ne pouvait pas faire grand-chose toute seule. C'était pas...
La condition féminine est un peu restrictive.
Voilà. Ensuite, il y avait Mayotte, où là, c'était aussi... les conditions matérielles, quand on n'a pas d'eau pendant un mois, comment est-ce qu'on s'organise pour récupérer l'eau, pour la douche, l'eau potable, pour
Est-ce que c'est assez incroyable d'ailleurs, c'est un territoire français, mais il n'y a pas ce qu'il faut en infrastructure.
Ah non, il n'y avait pas du tout, du tout. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est encore très difficile, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez hallucinant. Par contre, ça donne une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on peut, à l'issue de ça, c'est vrai que quand on a vécu aux Émirats Arabes Unis et qu'on arrive en France, on se dit, la France, pour moi, dans mes yeux d'enfant, c'était un pays sous-développé. Parce que ce que j'avais vu, bah oui, pardon de dire ça, mais c'était, j'étais habituée à une telle démonstration de luxe aux Émirats Arabes Unis.
Ah bah oui, que... non, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées en France.
Que c'est vrai, je me disais, mais mon Dieu, ça doit être ça, alors les pays en voie de développement, les pauvres. Alors qu'on n'était pas du tout riches, mais dans ma tête, voilà, j'étais habituée à voir tellement de choses que c'était... différent.
Ce qui est un peu paradoxal, parce que quand on voit que leur grand-père était dans le désert avec des chameaux et non, qu'eux, ils ont eu les puits de pétrole, et on voit la différence entre les générations, ce qui est quand même assez flagrant aussi dans les Moyen-Orient, parce que c'est une richesse qui est arrivée et qui a eu à profusion pendant des décennies, et maintenant ça change d'ailleurs, entre parenthèses. Mais bon, c'est comme ça. Bah, en tous les cas, c'est une sacrée carte postale que vous avez là. Mm-hmm. Vous en avez un mur avec plein de choses. C'est enrichissant finalement, c'est très enrichissant de voir des choses différentes.
Et puis, honnêtement,
ça s'ouvre sur le monde.
Exactement. Et puis j'ai toujours réussi à garder des amis. Vous savez, il y a des amis que je me suis fait quand j'avais 10 ans, donc que j'habitais à Sophia Antipolis et que je suis rentrée dans ce collège lycée international que j'ai toujours aujourd'hui.
C'est bien.
Des gens que je vois toujours. Donc on arrive à garder contact parce qu'on s'habitue. Non, c'est génial. Moi, je me plaindrai jamais d'avoir changer de pays régulièrement.
Bah ça... écoutez, c'est très enrichissant et tant mieux, c'est une vie bien, bien remplie finalement. Hein. Il y en a qui s'embêtent, mais bon, il y en a aussi qui bougent pas beaucoup, d'une part, ou qui veulent pas bouger, hein. Ça existe aussi, hein. Ils sont bien chez eux, tant mieux. Alors, ce premier roman, y a-t-il des projets pour en écrire un autre,
oui,
prochainement?
Je suis en train d'en finir un autre, figurez-vous, sur le Poitou-Charentes.
Le Poitou-Charentes, voilà. Un roman, un policier, oui. Toujours
alors,
un roman.
C'est un roman. Là, il n'y a pas de marque de roman policier comme il peut y avoir dans Un homme sous les nuages. Mais c'est encore une fois un roman dont la structure est très resserrée autour d'un scénario qui se déroule sur quelques mois.
D'accord.
Et donc, il y a une tension comme ça qui emporte le lecteur, j'espère, de chapitre en chapitre.
De page en page.
De page en page, pour qu'il les tourne. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, on va faire une deuxième petite pause musicale. Il y en a deux dans l'émission. Et on va retrouver Hervé Villard avec « Reviens ».
Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. L'amour dans la vie. Elle a traversé du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Je l'oublie, c'est certain. Je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. Ça ne fait rien, c'est pourquoi je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec
Tournez la page. Votre émission littéraire, animée par Mathieu Noirot.
Et oui, et nous arrivons à la dernière ligne droite de notre émission avec notre invité Yana Rocha pour son ouvrage donc Un homme sous les nuages. Et puis alors, de, on en vient de dire à l'instant, donc projet d'écriture pour 2025-2026.
Alors, j'espère le finir en 2025 pour qu'il soit publié en 2026.
Toujours chez Execo.
Chez Execo, j'aimerais bien, oui, c'est voilà. Une belle maison d'édition.
Et ce livre-là, on peut toujours se le procurer en grande surface, en librairie.
Bien sûr, oui, Un homme sous les nuages, il suffit de, voilà. De le commander dans une librairie.
Voilà, 15 euros sûr, pour... Voilà. Et puis, il y a des dédicaces de prévues ou des salons de prévues prochainement?
Alors, je commence à me lancer.
Ah, c'est bien.
J'ai eu très peur jusque-là et puis j'étais très prise en tant que maman. Puisque j'en profite pour saluer mes enfants, oui. Milan et Liven.
Voilà.
Mais voilà, la sortie de mon livre Un homme sous les nuages a coïncidé avec une prise de poste et au même moment, j'avais un enfant qui était vraiment en bas âge.
D'accord.
Donc j'ai voulu me concentrer aussi sur ma famille et maintenant je peux enfin. Voilà.
Alors le prochain salon ou la prochaine dédicace?
Alors écoutez, je n'ai pas de date, d'accord. Mais là je commence
c'est bientôt.
Je commence
pour la fin d'année
à regarder,
peut-être.
Prospecter, j'aimerais bien. Ouais.
Bon, bah écoutez, on prend note. Eh bien, écoutez, nous allons nous quitter. Une demi-heure, ça passe vite. Hein.
Ah bah oui.
Mais surtout en bonne compagnie. Mais bon, voici. Donc, merci d'être venu à Tourner la page, l'émission littéraire de notre belle et grande radio IRC. Et puis, peut-être aussi à bientôt.
Merci à vous et j'étais ravie de vous rencontrer.
Ouais, Tourner la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh bien voilà, l'émission est terminée. Je vous souhaite une très bonne après-midi à l'écoute de Radio Kodeshuka, votre radio locale. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, un nouvel invité, mais aussi pour Tourner la page. Mais on se retrouve mercredi prochain pour Histoire d'en rire. Bonne soirée à tous.